Interview.
10h du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le podcast du site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Gianca Kampfer. Bonjour.
Bonjour.
Madame Kampfer, vous êtes écrivain. Vous êtes ici d'ailleurs pour nous parler d'un ouvrage que vous avez récemment publié, Adieu Varsovie, aux éditions Ampelos. Ensuite, on pourrait aborder un petit peu un personnage sur lequel vous avez travaillé en tant que traductrice. Il s'agit de Stanislav Ignacy Witkiewicz. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Tout à fait.
Et puis ensuite, on abordera aussi, puisque vous êtes la cofondatrice de TV Val de Drôme avec Jacques Morican.
Tout à fait.
Puis, vous aurez peut-être quelques propos sur d'autres sujets. Et donc, Gianca Kampfer, je ne sais pas si on peut le dire aussi comme ça, Gianca.
Oui, c'est très bien, Gianca, c'est tout à fait juste, c'est un prénom polonais, donc voilà. Ça se prononce comme ça.
Vous êtes donc origine de la Pologne. À quelle époque vous vous êtes retrouvée en France ?
Alors, je me suis retrouvée en Suisse. Et je précise que, en fait, c'est mon premier livre. Je suis journaliste. Et c'est un livre de journaliste. Je ne prétends pas être écrivain. Je fais un travail d'enquête journalistique pour écrire ces livres. Alors, en fait, je me suis retrouvée en France à la suite des événements de mars 68 en Pologne, parce que, étant d'origine juive, enfin, je suis d'origine juive, je suis polonaise d'origine juive, ce fait n'avait pour moi aucune signification jusqu'en 68. Je le savais, mais ça changeait rien à ma vie, sauf que en mars 68, ont commencé les persécutions contre les rares juifs qui vivaient encore en Pologne à ce moment-là. Et mes parents ont perdu leur travail, ils ont perdu des amis et il s'est avéré qu'il fallait quitter le pays. La plupart de ceux qui vivaient encore en Pologne ont à ce moment-là quitté la Pologne. Et moi, je venais de commencer des études à l'Université de Genève de littérature française. Donc, il me fallait une université francophone. C'était quand même mieux. Et j'avais pas beaucoup de choix parce que mes parents refusaient complètement de me laisser étudier à Paris parce que suite à mai 68, évidemment, la situation, pensait-il, pour une jeune fille, n'était pas très sûre. Et ils m'ont proposé Lausanne ou Genève. Et j'ai choisi Genève parce qu'à Genève, à cette époque-là, il y avait des professeurs de littérature française qui étaient très connus, très respectés. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Genève en janvier 1969. Voilà.
Ces jours de mars 68, vous aviez quel âge environ ? Sortie de l'adolescence, j'imagine.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça a provoqué en vous, ce bouleversement de votre vie, de vos connaissances, de votre espace même ? Comment l'avez-vous ressenti, ce bouleversement ou cette violence peut-être même ?
Alors, en fait, ça s'est fait en deux temps, parce qu'en un premier temps, comme j'étais en année de bac, je devais me concentrer sur mes études. On vivait dans un quartier un peu éloigné du centre, et mes parents ont créé une sorte de bulle, ils m'ont hyper protégée, la directrice de l'école aussi, donc on devait se concentrer, mes camarades et moi, sur nos études pour réussir notre bac. Et surtout ne pas aller au centre-ville. Donc j'entendais des choses sans vraiment réaliser leur importance. Et ensuite, je devais, lorsque j'ai réussi le bac, il y avait des examens à ce moment-là pour rentrer à l'université. Donc je devais présenter les examens. Et quand j'ai fini tout ça et que j'étais admise à l'université, C'est là que mes parents m'ont tout raconté. Ils m'ont dit ce qui s'est passé. J'ai lu les journaux, les amis m'en ont parlé aussi. Et c'était le coup de massue parce que la conséquence de ce qui s'était passé, c'était justement la décision de mes parents de quitter le pays. Et ça, c'était vraiment l'effondrement de tous mes rêves. Parce que moi, j'ai étudié comme vraiment à fond. J'ai jamais été une très bonne élève, mais la dernière année, parce que je m'en fichais, mais la dernière année, j'avais compris que si je ne réussissais pas le bac et l'entrée à l'université, mes rêves n'allaient pas se réaliser. Donc j'ai bossé d'une manière, j'ai jamais travaillé comme ça, jour et nuit pratiquement, pour rattraper tout mon retard scolaire. Et mon objectif, c'était entrer à l'université, mais pas n'importe quelle université, mais l'université de Varsovie, qui était une université prestigieuse, qui se situe au début du centre-ville, avec une vie estudiantine absolument extraordinaire, la musique, bref. Je me voyais déjà étudiant dans cette université, et c'était vraiment l'accomplissement de mes rêves. Et là, en plus... Moi, je n'ai jamais senti le moindre antisémitisme en Pologne, probablement parce que j'étais très protégée, mais voilà. Donc, je ne me sentais pas injustement traitée, je n'étais pas une victime. Je comprenais bien que la situation n'était pas possible pour mes parents, mais j'étais mineure. Donc, je n'avais pas voix au chapitre, pas du tout. Mes parents n'étaient pas autoritaires, mais j'étais mineure et il était hors de question qu'ils laissent leur fille mineure à ce moment-là en Pologne. Donc voilà, c'était le bouleversement complet de tous mes plans de vie.
Donc vous êtes à Genève, vous vous lancez sur ces études. Oui. Vous destinez à quoi à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, moi en fait je voulais être actrice. Et c'est aussi ce que je faisais en Pologne en parallèle. Je prenais des cours dans une école de théâtre. Et donc là, je pensais faire la même chose. Et je me suis inscrite au théâtre universitaire. C'était une expérience très intéressante. Et puis, j'ai passé des examens pour entrer à l'école d'art dramatique à Genève. Mais j'avais un accent, j'ai toujours un accent. Mais à ce moment-là, mon accent, il était vraiment beaucoup, beaucoup plus prononcé. Genève, c'était une petite ville. C'est pas parce qu'il y a les organisations internationales qui sont un peu à part, enfin même totalement à part. C'est quand même une petite ville qui, avec tout le canton, ne dépasse pas 300 000 personnes. Et un accent là-bas, à cette époque-là, c'était rédhibitoire. Je veux dire, on ne pouvait pas jouer au théâtre en ayant un accent comme ça. Donc, j'aurais pu évidemment aller ailleurs, notamment au Canada, où vivait mon père, qui m'avait d'ailleurs emmené à Montréal dans une école de théâtre, pour voir si ça me convenait. Mais j'avais déjà commencé un petit peu à me sentir à l'aise à Genève, à me faire quelques amis, et je n'avais pas envie de recommencer, c'était trop frais. Donc j'ai renoncé, et puis, en fait, je suis devenue journaliste, enfin j'ai enseigné aussi, mais beaucoup d'étudiants à cette époque, d'étudiants en lettres enseignaient dans les écoles genevoises, ce qui leur permettait évidemment de compléter leur revenu. Et l'enseignement, je me débrouillais bien, mais je sentais bien que je n'avais pas forcément la patience pour faire ça trop longtemps. Donc, j'ai fait ce que j'ai toujours aimé faire. Je me suis mise à écrire, j'ai proposé des articles, j'ai suivi des cours de journalisme et je suis devenue journaliste, ce qui est assez... incroyable, parce que je ne m'étais pas vraiment rendu compte, parce que quand on vit sa vie, on ne réfléchit pas en même temps à ce qu'elle devient. Et en fait, c'est le métier de mon père et de ma mère. J'ai exercé le métier de mon père et de ma mère et ça m'a apporté beaucoup de satisfaction.
Les textes, vous avez toujours eu une passion pour ceci, pour le texte en général ?
Pour l'écriture, oui. Enfin, d'abord la lecture. La lecture m'a toujours aidée. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur ami que les livres. Et si j'étais mauvaise élève, c'est tout simplement parce que quand je rentrais à la maison, Il n'y avait personne, mes parents travaillaient, et moi j'avais les livres, et donc au lieu de faire mes devoirs, eh bien, je lisais, et ça m'a permis de me créer un univers, enfin c'était ma bulle à moi. Et ensuite est venue l'écriture, parce que je pense qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas, enfin ça, c'est évident. Hein. Donc voilà, et puis au début c'était pas facile, parce que c'était pas ma langue maternelle. Mais j'ai eu de très bons profs à l'Uni, notamment un en dissertation, qui était extrêmement exigeant et qui ne me lâchait pas. Enfin, sur le moment je le détestais un peu, mais il avait parfaitement raison, et c'est en fait grâce à lui, il s'appelait Albert Pi. Grâce, il n'était pas très aimé parce que la dissertation, ça embêtait tout le monde, mais c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à maîtriser suffisamment la langue française pour me lancer vraiment dans l'écriture. Mais attention, l'écriture journalistique, je ne suis pas écrivain.
Alors le journalisme, comment vous définissez justement ce type d'auteur ?
Le type de texte journalistique ?
Oui, à vos yeux, oui.
Oui, ben pour moi, le journalisme, c'est d'abord une investigation, une recherche. C'est rendre compte de la réalité qui nous entoure. Ce n'est pas le train qui arrive à l'heure, non. C'est ce qui dysfonctionne. C'est un peu le miroir de Stendhal qu'on promène le long de la route. C'est une façon d'intervenir dans la vie de nos concitoyens en étant pas lanceur d'alerte, parce que j'ai pas fait des choses spectaculaires, mais quand même en mettant le doigt sur ce qui devrait être changé, en interviewant des gens qui ont des pensées intéressantes, qui nous font réfléchir, qui nous font progresser. Et ça, c'était en tout cas dans la presse écrite, c'était comme ça. Et ensuite je suis passée à la télévision. Et là, c'est le fond est le même, mais il y a l'image. Et là, il faut laisser parler l'image. Il ne faut pas faire l'erreur de beaucoup de journalistes, de presse écrite qui passent à la télévision. J'espère que je n'ai pas fait cette erreur. C'est-à-dire, il ne faut pas d'abord écrire et ensuite filmer. Il faut laisser l'image nous guider de manière à ce qu'on a à dire soit complémentaire, mais pas posé sur les images. Et ça, j'ai vraiment énormément apprécié. Bon, il faut dire que la télévision suisse romande est une excellente télévision. À l'époque, il y avait vraiment des grandes figures qui travaillaient. J'ai eu la chance d'être coachée, comme on dit aujourd'hui, par des grands journalistes qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier. Et j'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot dans mon domaine. Et voilà, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais c'était de très belles années.
Donc, tout à l'heure, vous définissiez ce qu'était pour vous le journalisme, de l'investigation, de l'objectivité aussi. Par contre, quel est votre sentiment par rapport à ce flot de désinformation, ou aussi de ce que l'on perçoit dans les réseaux sociaux sur n'importe quel sujet et qui amène souvent le public dans l'erreur ?
Tout à fait, non, vous avez tout à fait raison. Hein, votre description correspond bien à la réalité, malheureusement. Non, moi, c'est pour moi une source d'étonnement et d'indignation pratiquement permanente. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, moi, on m'a appris à mettre en perspective, à recouper mes sources, à donner la parole et à porter une conclusion sur la base des faits. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est n'importe qui dit n'importe quoi et ça circule librement. Et quand il y a un démenti, parce qu'il n'y a pas toujours, le démenti, personne ou presque ne le voit et il reste le fake news. Et ça, bon, alors évidemment, d'un côté, il y a la liberté d'expression, effectivement, qu'on ne peut pas ne pas défendre, c'est normal. Mais il se trouve que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux n'ont pas d'éthique journalistique, n'ont pas de déontologie. C'est souvent d'honnêtes gens, mais ils ne vérifient pas les faits. Et ça rend notre monde pire. Au lieu de le rendre un peu meilleur, ça empire tout, parce qu'en plus, beaucoup de fake news sont porteurs de haine, d'intolérance. Mais c'est une évolution qui est allée, enfin, c'est allé tellement loin que je ne vois pas comment. Et ça pousse les journalistes dans les journaux à réagir toujours plus vite. Et ça, c'est pas bon. Un bon papier ne peut pas être juste une réaction. Il doit être précédé d'une enquête. Mais ils n'ont pas le temps, mes collègues, aujourd'hui. Parce que s'ils publient rien sur tel ou tel sujet, alors que les réseaux sociaux en parlent, ils passent pour des ignares. Donc, ils balancent comme ça, sur Internet, sur les pages des journaux, des choses qui ne sont pas suffisamment solides. Alors, bien sûr qu'il y a encore, Dieu soit loué, de très bons journaux. Mais quand même, je veux dire, moi, je compatis parce que ce n'est pas une vie de travailler comme ça. Ce n'est pas du bon travail. C'est sous la pression de cet environnement qu'on les oblige, entre guillemets, à écrire sans être vraiment prêt. C'est comme ça que je le vois. Je ne leur jette pas la pierre, je compatis. Mais je n'aimerais plus faire ça. Je veux dire, si je devais recommencer dans ce métier aujourd'hui, enfin, si je devais me poser la question, je pense que je choisirais un autre métier.
Tout à l'heure, vous parliez justement de ce que le journalisme rapportait, notamment les dysfonctionnements. Pour vous, c'est pour moi, je m'interpelle là-dessus. Il y aurait aussi les choses qui fonctionnent bien, qu'on pourrait partager dans l'information, non ?
Non, il y a énormément de choses bien. Je veux dire, les journalistes des grands journaux comme Le Monde ou Libération, le Temps en Suisse font du bon travail, mais en même temps, on a des journaux comme 20 minutes qui sont des... Oui, mais c'est cela que lisent les jeunes. Les jeunes ne lisent pas Le Monde. Enfin, ici, enfin, dans les grandes villes en France, ça peut être métro ou des choses comme ça. Et c'est les seules choses en papier que lisent, qui est liée aujourd'hui la jeunesse. Donc, voilà. Mais il y a de très bons journaux, il y a encore des journalistes d'investigation, il y a des journaux anglais qui sont excellents, comme The Guardian, il y a des journaux américains, The New York Times, Washington Post, ok, mais ça devient peu à peu des journaux d'exception.
C'est un journal. Ce sont des journaux payants aussi, par rapport à cette presse gratuite.
20 minutes gratuites.
Oui, c'est ça. Justement, est-ce qu'on pourrait envisager une réflexion à venir par rapport à cette information qui pourrait être traitée et disposée gratuitement aux lecteurs? Bien sûr, on pourrait objecter, mais comment peut-on payer ensuite les journalistes? Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être envisagé une prise en charge par une collectivité, un État, justement pour garantir ce type d'information et de l'amener justement gratuitement? Il y a la télévision française, même si elle est payante avec la redevance, mais il y a ces abords-là d'information qui ne sont pas forcément objectifs, hein, on peut dire aussi.
C'est délicat, hein? C'est délicat parce que intervenir, je veux dire, que l'État intervienne dans le fonctionnement de la presse.
Je ne dis pas d'intervenir, mais de garantir.
Mais garantir, ça veut dire subventionner. Et qui paye ? Commande. Alors évidemment qu'il y a des règles dans les pays démocratiques, mais il y a quand même un risque. Non, moi je pense qu'avec l'arrivée des journaux gratuits, il s'est passé quelque chose qui est la dépréciation du métier de journaliste. Parce que le travail ne peut pas être gratuit dans notre société, ou alors il faudrait que tout le système soit différent. Et à ce moment-là, ok, s'il y a le salaire minimum, si les transports publics sont gratuits, pourquoi la presse ne serait pas gratuite? Mais dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, capitaliste, néolibéral et tout ce que vous voulez, les journaux gratuits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les journalistes ne sont pas... Ils sont payés, bien sûr, mais ils sont payés avec quoi? Avec la publicité. Donc, ils dépendent de la publicité. Donc, leur travail est limité La formule elle-même les limite aussi parce que c'est pas beaucoup de lignes. Et du coup, ça porte préjudice à une bonne partie de la profession. Et si on ajoute à ça le fait que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut dire n'importe quoi, ben ça nous donne un paysage médiatique quand même assez détérioré.
Vous dites justement aux journalistes d'avoir du temps pour travailler sur son enquête. Est-ce que, à vos yeux, est-ce que le quotidien aussi n'est pas un méfait de cette... comment dire, de cette intoxication, puisque le quotidien nécessite une vitesse de publication,
tout de suite.
Alors qu'un journaliste qui a besoin de temps peut plus travailler sur un type de format hebdomadaire ou mensuel, peut-être. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de vitesse dans la presse
Bien sûr. Non, mais vous avez tout à fait raison. Bien sûr que c'est justement sous pression, mais la pression n'est pas bonne pour la qualité. Je veux dire, un bon petit coup de stress, un bon petit coup d'adrénaline, ça fait de mal à personne. Mais travailler tout le temps sous pression, c'est pas bon. Moi, je veux dire, quand je faisais mes reportages à la télévision suisse, notamment pour une émission qui était très connue, qui s'appelait Temps présent, qui était hebdomadaire, nous avions en moyenne 3 à 4 mois pour la réaliser. Ça veut dire qu'on avait plus d'un mois déjà pour préparer. Ensuite, on avait le temps pour la monter, enfin pour la tourner, et ensuite le temps pour la monter. Le montage était assez long, donc on pouvait soigner les détails, on pouvait compléter, on pouvait vérifier, on pouvait faire visionner. Enfin, tout ça, au moment où ça arrivait à l'antenne... Ça pouvait intéresser ou pas, suivant le sujet, mais c'était du solide. Aujourd'hui, qui est-ce qui vous donne 4 mois pour réaliser un reportage ?
Donc, vous êtes journaliste et certainement par connaissance, rencontre, vous en êtes aussi amené à produire des traductions.
Oui, alors les traductions, j'avais commencé encore lorsque j'étais à l'université. Il y a une très bonne maison d'édition à Genève qui s'appelle L'Âge d'Homme. Bon, son fondateur n'est plus de ce monde, mais je crois que c'est sa fille qui a repris. Et il était d'origine serbe et il s'était un peu spécialisé dans la littérature slave. Et il m'avait demandé une ou deux traductions et moi, ça m'intéressait. Donc voilà. Et parallèlement à ça, j'ai fait aussi des traductions du russe pour une petite maison française située à Nyons. Et j'ai repris cette activité récemment, mais le livre n'est pas encore sorti, c'est lui que j'ai traduit. Parce que le métier de traducteur, pour moi, il est complémentaire à celui de journaliste, en quelque sorte, parce qu'il permet aussi de... Enfin, il a une parenté, il permet de transmettre. Voilà.
Et donc, dans ces traductions, vous avez cet auteur, Stanislav Ignacy Witkiewicz, pour vous, qui est d'origine de Pologne aussi. C'est un homme du siècle qui est né pendant le 20e siècle.
Oui, c'est bon, surtout les années 20 et 30, où il a été très actif. C'est un personnage hors du commun, un homme un peu fou. Il devait aussi fumer, sniffer, enfin comme faisaient les artistes à cette époque-là. Et c'est un excellent peintre, un excellent écrivain, des livres non conventionnels, assez extraordinaires. Mais ce que j'ai traduit, en l'occurrence, c'était les lettres de son père. Parce que c'était très intéressant, c'était le père de Stanislav Witkiewicz était à l'opposé de son fils, c'était la voix de la raison. Et c'était très intéressant de voir comment il essayait de cadrer en quelque sorte ce fils génial, mais complètement dingue. Et il lui a écrit des lettres extraordinaires, hein. Vraiment c'était très intéressant. Mais c'est pas... C'est pas de la littérature. C'est intéressant sur le plan humain et sur le plan relation père-fils.
Une confrontation de génération aussi.
Absolument. Absolument, oui, oui. Confrontation de génération, une certaine incompréhension, mais toujours beaucoup de patience pour essayer de comprendre, pour essayer de rester ouvert.
J'imagine que ces dialogues étaient à double sens. Le fils répondait à ses lettres.
On n'a pas.
Ah, il n'y a pas de traces.
Non, il n'y a pas. Ça a disparu pendant la guerre, je crois. En tout cas, à l'époque où je traduisais, il n'y avait pas. Est-ce que ça a été... Non, je l'aurais su. Non, mais justement, c'est dans ce type de correspondance où vous n'avez qu'un côté... Une partie, c'est très intéressant parce que d'après les lettres qui suivent, vous imaginez les réponses. Donc ça fait travailler un peu l'imagination. Mais non, à ma connaissance, on n'a pas les lettres au père. On n'a que les lettres du père.
Vous disiez l'avoir connu avant, dès l'université, cet auteur. Qu'est-ce qui vous a attiré justement chez lui ? Quelle était cette poésie qui vous accrochait ?
C'était surtout des romans, c'est le côté fou, c'est le côté complètement, comment dire, déchaîné, totalement hors norme, qui ne correspondait pas aux classiques de l'Europe. Enfin, il n'écrivait pas comme... Il y en avait d'autres aussi, bien sûr, mais ça sortait de l'ordinaire, c'était vraiment une œuvre originale et ses dessins sont magnifiques.
Son existence a été de quelle durée ?
Je me souviens, je crois qu'il s'est suicidé au début de la guerre, de la deuxième guerre, mais c'est à vérifier. Ça fait longtemps que j'ai plus lu Witkiewicz.
Il y a donc la télévision avec la TSR et vous êtes aussi cofondatrice de TV Val de Drôme avec...
Jacques Morican.
Jacques Morican, merci. Ce désir, c'est pour vous avoir amené votre savoir-faire, vos connaissances dans cette technique et de la partager et puis aussi de pouvoir cadrer un paysage, une contrée et d'y trouver toutes les parcelles d'une société en quelque sorte.
C'est d'abord la découverte de cette région il y a une bonne quinzaine d'années, une région où je me sens vraiment bien, la découverte de ses habitants, de ses paysages, de ses activités. Et à ce moment-là, moi je travaillais encore à la télévision, Jacques Morican à la radio, pour la radio suisse. Et lorsqu'il a commencé à filmer... Effectivement, je me suis dit, bon, d'abord, il fallait transformer cette activité en quelque chose de plus construit parce qu'il était tout seul. Donc, on était quatre, trois à nous lancer avec lui après qu'il ait commencé. Et oui, puisque cette région me parle, que j'aime y être, ça me stimulait de pouvoir utiliser mon savoir-faire de télévision, parce que dans les dernières années de mon activité à la télévision, j'étais productrice d'une émission, donc je visionnais beaucoup, je préparais beaucoup, enfin j'avais acquis de l'expérience, et de mettre cette expérience au service de Vidéo Val de Drôme, c'est un pur plaisir. Surtout qu'on a fait énormément de progrès. On s'est formé encore plus. On s'est ouvert à plein de sujets. On se sent soutenu. Enfin, c'est une très belle aventure et ça me fait très plaisir d'apporter ma petite pierre.
D'ailleurs, récemment, il y a eu l'Assemblée Générale de TV Val de Drôme. Qu'en est-il ressorti ?
Notre dernière Assemblée Générale a lieu il y a quelques semaines, en effet. Donc, on a évidemment annoncé quelques chiffres à nos membres. Surtout, celui qui nous fait chaud au cœur, c'est qu'il y a plus d'un million de vues. Alors après, la moyenne, ça dépend des sujets, mais il y a des sujets comme par exemple l'incroyable caverne du papy bricoleur qui a dépassé, enfin qui va bientôt arriver à 400 000 vues. C'est totalement exceptionnel, bien sûr, c'est pas ce que font d'habitude nos vidéos. Mais ça montre que des sujets quotidiens intéressent les gens, qu'il n'y a pas besoin de faire du spectaculaire. Quand il y a de l'humain, ça marche. Et puis, il y a tout ce travail de mémoire. Et alors, lors de l'Assemblée, on a aussi parlé finances, bien sûr. parce que qui tourne, qui parle de, qui fait des tournages, ben il y a du matériel, c'est un matériel qui coûte cher, il faut le changer systématiquement, etc. Donc nos finances sont saines. On a eu le, on a l'immense plaisir de constater que les subventions des communes arrivent. On pensait que cette année, qui est une année particulière, on en aurait beaucoup moins, ce qui aurait été compréhensible. Mais non, toutes les communes pratiquement ont, ont répondu. Et il y a même de toutes petites communes qui nous subventionnent, ce qui est particulièrement touchant. Et pas forcément celles où on a tourné. Ils font ça parce que je pense qu'ils ont compris que le travail de mémoire était, était important. Et puis, on est soutenu par le programme LIDER, donc ça, c'est bien, aussi par le département, enfin, pas récemment, mais au, au début. Et puis, je pense que comme le matériel vieillit, évidemment, je pense que cet automne, on sera de nouveau amené à faire une action de crowdfunding. On a déjà fait ça. Ça marche assez bien parce que ça donne à, nos, à notre public un sentiment que, qui me touche profondément, de participer, d'en être, de soutenir, pas seulement par les paroles, mais par un geste. Donc, les toutes petites, peu importe la somme, mais c'est ce sentiment de participation, du plaisir à soutenir quelque chose qui leur paraît juste, qui me plaît là-dedans. Je trouve ça très touchant.
Je reviens sur ce, ce monsieur avec sa cave.
La, que nous avons appelé caverne parce que ça fait un peu caverne à Alibaba.
Et qu'est-ce qui, d'après vous, mobilise autant d'audience par rapport
c'est
à ce reportage?
C'est un monsieur qui est très très âgé, mais très à l'aise dans la parole et d'ailleurs qui a passé 90 ans, maîtrise l'informatique, chapeau. Et qui raconte, et qui est un sacré bricoleur, donc il montre un peu ses installations, mais surtout, il raconte sa vie, enfin comme pratiquement toutes nos vidéos, la vie d'autrefois, quand il se promenait avec une camionnette de la banque pour amener l'argent aux personnes dans les villages isolés, etc. Il raconte rien de spectaculaire, mais c'est toute la vie de ces années-là qui défile et... Et c'est très touchant.
Adieu Varsovie, on revient dessus. Pour vous, quelle était cette nécessité d'écrire ce livre?
Alors, cette nécessité, comme vous dites si justement, elle est relativement récente. Elle date d'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, est sorti un livre en Pologne sur ma mère, qui était une grande héroïne de la résistance pendant la Deuxième Guerre, et une grande héroïne de l'insurrection de Varsovie et qui ensuite a changé d'identité, est devenue poétesse, elle écrivait en italien, en polonais aussi mais surtout en italien, et un journaliste et écrivain polonais, un jeune journaliste écrivain, a voulu lui consacrer un livre pour essayer de comprendre son parcours parce qu'il y avait beaucoup de mystères. Et le livre, je l'ai aidé à le faire en retrouvant des documents, c'était assez extraordinaire d'ailleurs cette recherche de documents que ma mère avait plus ou moins cachés et sur lesquels on a pu mettre la main dessus. Le livre est sorti, malheureusement il n'est pas resté longtemps en librairie parce qu'il y a eu un problème avec des lettres qui étaient publiées dans ce livre de son amoureux de la guerre qui est aussi un héros du ghetto de Varsovie, qui avait donné son accord, malheureusement seulement oralement, et qui a ensuite a nié, bon c'est un vieux monsieur, et je ne sais pas ce qui s'est passé, bref il a nié, et il y a eu des procès, le premier a été gagné, et puis les deux autres perdus, donc le livre a été retiré au bout de 2 mois. Et moi ça me travaillait, c'est-à-dire je trouvais ça un peu injuste, et puis surtout ce que je trouvais important, c'est aussi de reconstituer l'histoire de mon père. Parce que mon père est un journaliste de télévision très connu en Pologne. Il a inventé la télévision éducative. Il a ensuite travaillé pour l'UNESCO, où il a mis sur pied justement les premiers programmes éducatifs. Ensuite, il a travaillé au Canada, où on lui a offert une chaîne de télévision éducative. Mais son passé est passionnant. et je n'en savais pas grand-chose, parce que mes parents ne parlaient pas, comme beaucoup de gens qui ont survécu à la Deuxième Guerre, ils ne parlaient pas volontiers, mais les miens, ils ne parlaient pas du tout. Mais mon père, c'est surtout un réfugié, enfin, ou un déporté plutôt. Toute sa famille a été déportée en Union soviétique pendant la Deuxième Guerre. D'abord en Sibérie, ensuite en Ouzbékistan. Et ce qui leur a sauvé d'ailleurs la vie, mais quand même, c'est pas banal. Et mon grand-père, je ne l'ai jamais connu parce qu'il est mort du typhus en Ouzbékistan. Puis après la guerre, ils sont revenus en Pologne et mon père est devenu un communiste convaincu. Et sa famille, elle a émigré. Et tout ça, je n'en savais rien et je trouvais que c'était intéressant. Donc j'ai trouvé plein de documents et des photos. Et j'ai trouvé aussi des choses sur ma mère pour essayer de comprendre son parcours dans mon enfance. Mes parents, plus tard non plus d'ailleurs, mes parents ne parlaient pratiquement jamais du passé. Voilà, donc j'ai voulu aussi qu'il reste une trace. Une trace de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, parce que je pense que personne ne doit disparaître sans laisser de trace. Donc, c'est ma contribution, c'est un peu comme un devoir filial, finalement. Et j'avais compris que si je ne le faisais pas, ça me pèserait. Donc, je l'ai fait, je me sens d'ailleurs beaucoup plus légère. Et ce qui me touche, c'est que les lecteurs s'y retrouve, parce que j'ai fait beaucoup de recherches historiques aussi. Ça ne me paraissait pas intéressant de publier juste l'histoire de mes parents. Ce qui me paraissait important, et c'est là où je suis toujours journaliste, c'est de montrer le contexte, de mettre en perspective, de montrer comment les histoires individuelles sont influencées par la grande histoire.
La grande histoire, d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, et du moins une certaine partie de la population, et on peut s'amener parfois à refaire les mêmes erreurs, ce qu'on peut ça découvrir aujourd'hui encore de nouveau. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Je pense que quand on... Je ne suis pas politologue, mais c'est vrai que les erreurs reviennent, les mêmes, c'est ça. On dit qu'on ne refait jamais les mêmes erreurs, mais ce n'est pas vrai, enfin, d'après ce que je vois. Donc, moi, je ne prétends pas mettre en garde qui que ce soit. J'espère juste contribuer en montrant comment les choses, comment les catastrophes s'enchaînent, l'impact que ça a sur les vies des gens et sur les générations suivantes. Parce que la deuxième génération est tout aussi concernée et la troisième... Un peu moins, mais quand même aussi.
Il y a ces drames donc que vous écrivez justement dans Adieu Varsovie. Il y en a un autre aussi sur lequel vous êtes engagé. Ce sont les jeunes migrants. Et ça, vous participez auprès d'une association à Genève qui s'intitule d'ailleurs...
Reliance, association Reliance. Oui, l'association Reliance... Elle s'occupe des enfants essentiellement. Il y a plusieurs sections, mais il y en a une qui s'occupe spécifiquement, et c'est celle-là que j'administre avec mon collègue Pierre Tuchère, qui s'occupe des jeunes migrants non accompagnés. Parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'arrivées de jeunes qui ont passé par des choses épouvantables, depuis le Soudan, le Kenya, enfin en venant notamment d'Éthiopie, ceux qui viennent de Somalie, ceux qui viennent d'Afghanistan, et ils arrivent... Ils sont arrivés en Suisse à l'âge de 15, 16, 17 ans, sans famille, parfois avec un vague oncle ou une tante, etc. Et puis, ils sont pris en charge, bien sûr, par l'État, mais il leur manque des parrains ou des marraines, des gens qui les accompagnent, qui les aident à s'insérer, qui les aident à comprendre cette réalité européenne tellement différente de ce qu'ils ont connu. Et il manque des gens de confiance. Alors évidemment, on ne peut pas répondre à tous les besoins, mais nous, on a un système de tuteurs. Les jeunes qu'on nous présente bénéficient du soutien d'une tutrice ou d'un tuteur qui est un peu le go-between Et c'est pas un deuxième papa ou une deuxième maman, ça c'est pas possible. Mais c'est une personne bienveillante, de confiance, qui essaye, enfin qui fait mieux qu'essayer, parce que nos tuteurs font un très très bon travail, ben justement de combler les lacunes qu'il y a dans le système d'accueil des migrants. Ça, ça fonctionne bien. Les jeunes filles et les jeunes garçons qui bénéficient d'un tutorat, ça, les écoles et d'autres institutions nous le disent, s'en sortent mieux. Ils se sentent soutenus. Et ben là, par exemple, on vient de traverser une période qui était pour eux, pour tout le monde, mais pour eux particulièrement pénible, parce que la pandémie les a encore plus isolés. Parce qu'il fallait quand même leur expliquer le comment du pourquoi de toutes les mesures sanitaires. Enfin, bref, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils ont déjà tellement de choses à apprendre, à comprendre, à réaliser. Et là, en plus, beaucoup étaient en quarantaine, donc encore plus isolés. Et tous nos tuteurs, d'une façon ou d'une autre, ont maintenu le contact. Toujours eu le contact.
Cette association réside à Genève.
Oui, c'est une association privée, mais qui est soutenue, entre autres, effectivement, par le département de l'instruction publique et le département d'égalité sociale, des fondations privées, et plusieurs fondations privées, certaines communes, très peu, mais c'est une association privée qui rend des comptes aux subventionneurs, bien sûr, mais qui est indépendante, voilà. Et on est soutenu parce que, en fait, ça arrange tout le monde. Parce que le problème, je veux dire, comme partout, accueillir des migrants, ça veut dire assurer autour d'eux ce qu'il faut. Et ça, en tout cas, à Genève, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est de loin pas assez. Donc finalement, pour un coup, puisque nos tuteurs sont bénévoles, ils ont juste de toutes petites indemnités pour un coût qui n'a rien à voir avec celui qu'il aurait fallu avancer pour s'occuper de ces jeunes gens et de jeunes filles. Pour un coût minime, on a quelque chose de qualité. Donc ça arrange tout le monde. Et nous, pour nous, ce qui compte, c'est qu'on nous donne juste les moyens de faire en sorte qu'au moins quelques-uns de ces jeunes se sentent mieux dans leur peau.
Et ces fondations, justement, quel est l'intérêt pour elles de participer à ce type d'engagement, de soutenir votre travail ?
Beaucoup de grandes entreprises, notamment horlogères en Suisse, ont un peu ce qu'autrefois on appelait les œuvres de charité. C'est pas gentil, mais c'est comme ça. Beaucoup de grandes entreprises ont créé, un certain nombre des fondations qui disposent d'un certain argent et qui auditionnent les acteurs de la vie locale pour savoir où peut aller telle somme d'argent. Je pense que c'est leur façon de contribuer à la vie de la région. C'est une sorte de mécénat qui, je pense, doit leur faire du bien au moral. Et c'est très bien, ça veut dire que on peut être un grand capitaliste et avoir des sentiments humains, et plus que des sentiments, puisqu'ils sortent de l'argent très concrètement. Et nous leur en sommes reconnaissants, parce que si le subventionnement de ce type d'activité n'était assuré que par les institutions étatiques, je ne sais pas comment on s'en sortirait.
Et justement, je voulais savoir aussi quel est le point commun, ou quels sont les points communs entre la France et la Suisse au vu du traitement prodigué ou pas aux migrants.
Alors, pour la Suisse, dans son ensemble, je ne peux pas parler, parce que vous savez que la Suisse est composée de cantons et qui sont, en tout cas sur le plan de l'éducation et sur le plan social, assez indépendants. Ce n'est pas la Confédération qui s'occupe de ça. La Confédération, en revanche, crée des centres de rétention pour les futurs expulsés. Ça, malheureusement, oui, et ce n'est pas joyeux. Et je pense que là, on rejoint un peu la situation française, parce que finalement, on met des gens dans des centres de détention, derrière des barbelés, Et on n'a qu'une idée, c'est les expulser le plus vite possible. Enfin, mais dans le canton, il y a quand même... Bon, Genève, c'est un peu particulier, parce que évidemment, il y a les internationaux, c'est pas du tout le même public, mais c'est quand même de longue date une région où on a l'habitude de voir les autres, on n'a pas peur des autres, il y a un mélange. Donc, je pense que, par exemple, malheureusement, il y a eu cette votation, enfin, je dis malheureusement parce que moi, je trouve que ça... C'était pas une décision du peuple suisse par rapport à la burqa. La burqa a été, le port de la burqa vient d'être interdit par votation. Mais jusque-là, moi, je sens pas de... Il y a toujours la xénophobie, il y a toujours les partis d'extrême droite qui nous menacent de l'invasion par les migrants, bien sûr. Mais je trouve que ça reste encore dans les limites du bon sens. Mais c'est pas joli, bien sûr, je veux dire. Quand on voit les affiches des partis d'extrême droite qui montrent les immigrés comme des sauvages, ou je ne sais pas, enfin, je veux dire, c'est, les bras vous en tombent. Hein. De toute manière, toute l'Europe a peur de l'autre. Ça, c'est pas une spécificité française ou suisse. Dans tous les pays, les gens ont peur de l'autre.
Cet ouvrage, Adieu Varsovie, donc édité chez Ampelos, aux éditions Ampelos, est-ce que cet ouvrage, on peut le trouver à la librairie Mosaïque Adi, par exemple?
Alors, j'espère, on va leur demander s'ils sont intéressés. Je sais que la balançoire à Cray l'avait. Autrement, il faut le commander, malheureusement. Moi, j'aurais préféré qu'il soit disponible dans les librairies, enfin, surtout les petites librairies indépendantes. Mais ce n'est pas une grande maison d'édition, je ne suis pas un auteur connu. Et si on se place du point de vue des petits libraires, il y a des risques financiers. Enfin, bien sûr, ils peuvent retourner les invendus, mais ils ont des craintes. Voilà. Je peux les comprendre, je le regrette, mais voilà. Moi, mon rêve, c'est mon dernier rêve à propos de ce livre, parce qu'autrement... Ben, je trouve que j'étais bien gâtée par mes lecteurs, c'est entrer dans une librairie et trouver une pile avec mes livres. Ce serait une belle, comment dire, une pointe finale qui me ferait du bien au cœur.
Janka Kempfer, Louis, c'est le nom de votre époux?
Mon ex.
Et donc, je vous remercie d'être venu sur RDWA pour nous parler de Adieu Varsovie et puis d'autres choses autour de l'humanité. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, ça m'a fait très plaisir de participer à cette discussion.
Au revoir.